Lundi 2 juin, 18h, 1 minute et déjà 10 secondes sur Radio Campus Paris en FM et sur le web. 18h, 1 minute, c'est toujours l'heure de la relève. Bonsoir, c'est l'heure de votre quinzomadaire radiophonique préféré, La Relève. C'est tous les 15 jours ou presque, 30 minutes pour découvrir de nouveaux talents. Ce soir, on parlera de névrose et d'agrumes. Mon invité est romancière, forcément romancière. Mais avant de commencer, comment réagiriez-vous si vous observiez d'incessants va-et-vient chez vos voisins? C'est la situation à laquelle est confrontée Echo, une jeune femme vivant à Los Angeles. Elle revient s'installer dans la maison de ses parents, après la disparition de son père. Est-il tombé de la falaise dans l'océan? S'est-il noyé? Son corps réapparaîtra-t-il un jour? Echo ne le sait pas et doit vivre dans cet entre-deux où elle ne peut pas vraiment faire son deuil, où elle continue d'attendre le retour d'un homme, un retour dont la probabilité s'éloigne chaque jour. C'est que la vie d'Echo n'est pas trépidante non plus, on est à Los Angeles, et si elle a rêvé un jour de faire du cinéma, elle a surtout fait des publicités, dont l'une qui lui a donné une toute petite célébrité. Elle pose aussi nue comme modèle dans des cours de dessin, un endroit où elle retrouve un homme qui ne lui veut pas que du bien, mais on en dira pas davantage si ce n'est que les hommes ne sont vraiment pas des modèles de bienveillance pour Echo. Avec ou sans père, Echo, qui a passé la vingtaine et arrive à l'âge où les rêves que l'on avait doivent se confronter à la réalité, l'âge où le réveil peut être douloureux. Alors, en attendant ce moment fatal, Echo navigue dans un entre-deux, dans entre-deux eaux. J'ai presque envie de dire s'il n'y avait pas un risque de blague de mauvais goût avec son père. Tout chez elle ne semble être qu'indétermination, à commencer par ses préférences amoureuses. Et la rencontre avec la fameuse voisine sera peut-être le début d'un réveil plus doux qu'on ne l'imaginer. Dans les critiques que j'ai lues de ce livre, on parle beaucoup de sadomasochisme. Je vous préviens tout de suite, si on en parle, c'est une version très très cérébrale. Permission, c'est le titre d'un roman. Et peut-être surtout et avant tout un très grand livre sur la dépression, celle d'une jeune femme perdue dans une ville où ses parents sont venus d'Europe et où elle n'arrive pas à trouver sa place. Los Angeles qui est évoquée comme on l'a rarement fait. Ce n'est ni la ville du rêve hollywoodien ou celle du bien-être californien. Je lis juste un extrait. On perd facilement la notion du temps à Los Angeles, même quand on est en train de se demander où est papa, si parti veut vraiment dire parti et ce que ça veut dire être parti. Le soleil et le ciel sont des narcotiques, 24 degrés des après-midi de ciel clair au long des plages, jour après jour après jour. Jour après jour. C'est toute la singularité de ce premier roman qui n'est jamais là où on l'attend. Ça s'appelle Permission. C'est signé de Saskia Vogel, c'est traduit de l'anglais par Valérie Leplouinec et c'est publié aux éditions La Croisée. Bonsoir Laura Chaumet.
Bonsoir Christophe, merci beaucoup pour votre invitation.
Mais je vous en prie, vous publiez un premier roman chez Gallimard intitulé La Pulpe et le Jus, un premier roman très original lui aussi comme celui dont on vient de parler, mais il n'est pas vraiment du même genre. Il raconte les aventures de Jenna, une jeune femme d'à peine 27 ans qui a quelques problèmes, on va en parler, mais aussi des passions. Est-ce que vous la connaissez Jenna? J'avais envie de commencer par cette question. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé ou quelqu'un que vous avez complètement inventé?
Disons que ça, je dirais que c'est un agrégat de plusieurs personnes que j'ai croisées. Physiquement, je l'ai déjà croisée parce que je me suis inspirée d'une personne que je connais. Et après, sur tout ce qui est l'univers mental, les croyances, la vie intérieure, etc. Ça, c'est des choses que j'ai piochées un peu à droite, à gauche.
Et alors, on va tout de suite en parler d'elle. Elle passe son temps à aller chez le médecin, un docteur qui commence à un peu en avoir marre. Je crois qu'elle peut aller jusqu'à 4 fois par semaine. Elle est en gros hypochondriaque.
Oui, je pense qu'on peut le dire.
Vous connaissez des hypochondriaques?
Oui, j'en connais et puis je pense qu'il y en a de plus en plus, c'est quelque chose qui est assez répandu, donc oui j'en connais et puis je pense que moi-même je peux parfois avoir quelques peurs sur certains tout petits symptômes que je peux dramatiser un petit peu, sans pour autant être officiellement hypochondriaque, mais enfin j'ai une idée de ce que ça peut être.
Qu'est-ce qu'il y a Alors d'abord, est-ce que vous vouliez avoir un personnage hypochondriaque? Est-ce que c'est ça le point de départ de votre roman? Ou est-ce que c'est une autre situation dont on va parler après? Est-ce que c'était d'abord parler d'hypochondrie qui vous... Enfin, en tout cas, de l'hypochondrie qui vous intéressait?
Oui, je pense que c'était l'hypochondrie, mais en tant que l'hypochondrie est un peu l'incarnation d'un mal-être intérieur qui est une forme de mélancolie ou d'angoisse existentielle.
Un peu comme le personnage dont je viens de parler.
Voilà, c'est ça.
C'est drôle.
Et d'ailleurs, je crois qu'en russe, il y a une traduction du mot hypochondrie qui signifie vraiment le côté mélancolie et angoisse plutôt que juste peur des maladies.
Et qu'est-ce qui est intéressant dans l'hypocondrie, c'est que c'est un moyen de parler de la mélancolie, peut-être d'une manière un peu plus drôle, parce que bon, l'hypocondriaque, même si c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on considère non sans raison problématique ou d'Hélène, on a fait quand même, c'est de, avec lui, l'hypocondrie est devenu un des beaux-arts quasiment. Son angoisse existentielle, justement. C'est ça qui vous intéressait, c'est que ça peut être drôle, sinon on peut être dans quelque chose de très plombant quand on parle de mélancolie.
Oui, effectivement. Je pense que ça permet une distance sur une angoisse qui serait vraiment plombante autrement. Et effectivement, ça a un côté ridicule quand on est à l'extérieur, même si quand on vit les choses de l'intérieur, je pense que c'est très handicapant. Et ça peut rendre extrêmement malheureux. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec l'hypocondrie, c'est que comme beaucoup d'autres phobies, c'est une forme d'énergie et que ça permet de tendre vers l'action. Quelque part, c'est un moyen aussi d'échapper à la dépression que serait la mélancolie pure.
Et justement, c'est un travail du style, ça, d'arriver à trouver la juste distance pour à la fois montrer la souffrance du personnage, ce qu'on sent très bien quand on vous lit, et en même temps son côté parfois un peu absurde.
Oui, je pense que la distance permet une forme d'humour, de dédramatisation, disons. Et donc, c'est plus. En tout cas, pour moi, c'était peut-être plus intéressant sur le long terme pour construire une histoire, d'être de ce point de vue-là, plutôt que de creuser le côté souffrance, que je pense, c'est bon, on a compris au bout de quelques pages, on n'a pas forcément envie de s'enfoncer dedans. Et peut-être que le but, c'est de montrer comment cette souffrance peut se convertir en autre chose. Parce qu'après tout, c'est une femme assez jeune, qui a de l'énergie, qui a peut-être de la ressource et qui peut peut-être sortir de ça aussi.
Elle a de l'énergie, mais alors on n'a envie ni de travailler avec elle, ni d'être son petit ami, parce qu'elle a l'air... Alors je ne sais pas, on est en 2025 et j'ai parfois des références qui datent, mais on a envie de dire que c'est un peu un boulet quand même.
Oui, non, c'est vrai, exactement. Et ça, je trouvais ça...
C'est un boulet sympathique, qu'on aime bien, mais on se dit que dans la vie quotidienne, elle doit être compliquée.
Bah, sympathique ou pas, c'est vrai qu'elle peut paraître aussi antipathique, à mon avis. Mais justement, j'avais envie d'avoir aussi ce point de vue social sur elle. C'est-à-dire de montrer comment les gens comme ça, dans notre vie de tous les jours, quand c'est notre père, notre sœur, notre meilleure amie, c'est lourd. Et c'est pénible et on ne sait pas comment les aider. Et ils nous mettent sans arrêt en échec. Ils mettent aussi les médecins en échec, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une médecin qui m'a dit ça récemment. C'est vrai que les personnes un peu hypochondriaques comme ça, qui reviennent et qui se sentent toujours finalement un peu au-dessus du médecin parce qu'ils pensent comprendre des choses que le médecin, lui, n'a pas perçues. Et donc, en fait, c'est impossible de les aider. Et donc, c'est très pénible.
Mais... Moi, je reviens à votre travail d'écrivain. Parce que vous avez beaucoup travaillé, justement, la langue pour arriver à rendre tout ça. Comment on fait parfois, vous gommiez parce que vous trouviez que ça devenait trop sérieux. Vous aviez besoin de rajouter un peu de légèreté. Et comment aussi vous faites pour arriver à la rendre sympathique. C'est cette ambiguïté qu'on sent avec elle. Ça a été un gros travail, ça, d'écriture.
Oui, parce qu'en fait, au départ, moi-même, en l'écrivant, j'avais du mal à m'attacher à elle. Et en fait, c'est en écrivant en parallèle sur le personnage de Denis, qui est un personnage beaucoup plus léger, qui est presque, dans quelque chose de vraiment un peu grotesque par moment, parce qu'il fait partie de l'émission de télé-réalité, ouais. Les Nouveaux Guérisseurs. Bon, et en écrivant sur ce personnage, en fait, j'ai l'impression d'avoir trouvé un ton avec un peu plus de recul.
Alors Denis, pourtant, il a un vrai drame, lui, dans sa vie. On ne va pas le dire, mais...
Oui, mais au final, c'est présenté sous forme de spectacle bien sympathique. Et...
pour les gens qui n'ont pas lu le livre, parce que là, tous les deux, on l'a lu. Enfin, vous l'avez écrit, moi, je l'ai lu. Pour les gens qui nous écoutent, on va juste expliquer que Jenna, elle regarde une émission de télé-réalité qui s'appelle Les Nouveaux Guérisseurs, qui est une émission qui, justement, une télé-réalité qui suit un malade, enfin je ne sais pas comment dire, quelqu'un en tout cas qui a une phobie en direct. Les gens autour de lui sont complices mais il ne le sait pas. Et elle se passionne pour ce Denis qui, alors lui si je me souviens bien, n'arrive plus à sortir de chez lui, sauf qu'à des heures très particulières, il fait ses courses très tôt et voilà.
Exactement, il est agoraphobe et claustrophobe. Et c'est d'ailleurs souvent des phobies qui sont liées.
Et donc vous attachez d'abord à Denis et c'est comme ça que vous avez réussi à vous attacher à Jenna.
Bah, en fait, c'est pas tant que... Oui, enfin, j'ai eu, je pense, plus de facilité à m'attacher à Denis parce que c'est un personnage un peu plus éloigné de moi. C'est un homme plus âgé qui a une famille. Je le voyais peut-être avec plus de distance et peut-être que je voyais sa souffrance comme quelque chose d'un peu plus comique parce que c'est dans l'émission et donc c'est ludique et c'est c'est aussi pour divertir. C'est du divertissement grand public, en fait, l'émission. Donc... c'est en écrivant effectivement sur Denis que je me suis dit, mais en fait, je devrais instiller un petit peu. D'ailleurs, je pense que ça se fait au fur et à mesure du roman. Je pense qu'au départ, il y a quelque chose d'assez grave et sérieux dans la souffrance de Jenna. Et au fur et à mesure, elle se fait, enfin, l'écriture est un peu contaminée par le côté plus ludique de la situation de Denis dans l'émission.
Ça veut dire que, quand on écrit sur une télé-réalité, on est obligé, enfin, vous-même, vous avez travaillé sur le dispositif de mise en scène et ça vous a vous-même mis l'histoire à distance ?
Oui, oui,
c'est
oui.
C'est ça qui est drôle.
Oui, je l'ai imaginé parce qu'en fait, à chaque fois, j'imagine comment tout le monde dans l'émission tire vers, voilà, pour faire sortir du pathos ou pour aller vers des situations extrêmes. En fait, la production s'organise pour ça. Et donc, ça devient quelque chose de mise en scène et donc forcément moins... Enfin, je ne sais pas si c'est moins grave, parce que on pourrait dire que c'est quand même embêtant, mais enfin, en tout cas.
Parce qu'on en fait un spectacle, donc du coup, le fait que déjà soit mis en scène, on peut imaginer que c'est moins grave, effectivement. Et puis il y a 300 000 euros à gagner. Ça motive peut-être aussi dans ces cas-là à aller mieux. Et puis c'est présenté par un animateur vedette qui s'appelle Connor. Il manque juste une lettre, c'est fait exprès ou pas ? À une lettre près, il s'appelle autrement, quoi. Vous l'avez.
Non, ah, visiblement, j'y ai pas pensé.
Parce que
j'y ai
c'en pas est un mot, hein, si on retire le haut et qu'on le remplace par un. Moi,
c'était
pas
peut-être
gros,
inconscient, ouais.
Je ne dis pas de gros mots à l'antenne, j'ai pas le droit. Mais c'était pas voulu ?
Parce que c'en est un,
comme on dit,
c'en
est un gros, hein.
Ouais.
Vous êtes d'accord ? Il est très cynique, lui, en tout cas.
Il est cynique. Après, je sais pas si. Je ne sais pas si je le jugerais comme ça, mais en tout cas, voilà, dans la fonction qu'il occupe, effectivement, c'est peut-être quelqu'un de peu recommandable.
Alors dans votre livre, il y a aussi beaucoup d'humour noir, moi j'ai trouvé. Mm-hmm. C'est un genre que vous appréciez. J'ai juste pris un exemple comme ça, hein, c'est un moment. Elle ne veut pas finir comme Patrick. Alors on parle de Jenna. Jenna ne veut pas finir comme Patrick et qu'on dise en l'enterrant, je suis venue par politesse, je la connaissais à peine. Un enterrement, ça se prépare, il faut une vie pour dresser la liste des invités. J'adore cette idée. Ça vous, c'est l'univers de l'humour noir, c'est quelque chose que vous aimez ?
Oui, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les textes drôles, mais j'aime pas forcément quand on essaye d'être drôle ou les auteurs qui essayent de faire de l'humour et ou pour lesquels on sent que c'est forcé. Mais par contre, il y a des auteurs qui me font énormément rire, et je pense que c'est pas du tout quelque chose de recherché, mais c'est juste une vision très sombre. Moi, je ris un peu à l'endroit de la catastrophe, donc des auteurs comme Houellebecq ou Yasmine Arisa, par exemple, me font beaucoup rire. Mais il y a d'autres formes d'humour aussi que j'aime. Je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'humour noir. Là, par exemple, je suis en train de lire L'angoisse du roi Salomon de Romain Gary. Il y a aussi un peu cet humour dans un autre livre qu'il a écrit sous le nom d'Émile Ajar qui s'appelle Gros câlin. Et là, c'est très drôle, mais c'est un humour qui est à la fois assez noir, mais en même temps très tendre. Et... voilà, ça j'adore.
Là, c'est aussi assez tendre d'ailleurs, parce que dire qu'il faut une vie pour faire la liste des invités d'un enterrement, c'est pas que noir, effectivement. On a beaucoup, justement, comme il fait très chaud dans le studio et j'ai soif, et j'ai posé mon verre un peu loin, donc je ne peux pas boire. Je tiens à le dire, c'est pour ça que j'ai eu un petit problème. Elle a une passion pour les agrumes d'Extrême-Orient. Votre personnage, il est... Les critiques qui ont parlé de votre livre s'en sont données à cœur joie sur votre acidité. Moi, je ne vous ai pas trouvé si acide, je vous ai trouvé très empathique avec vos personnages, finalement. Vous pensez être acide ou plus empathique ou les
bah,
deux,
moi,
ou
je les
deux
enfin, j'ai passé 2 ans avec eux, donc à la fin, forcément, je les aime et leur sort m'importe beaucoup. Donc, je pense avoir. Enfin, oui, je pense avoir de la tendresse pour eux.
L'empathie, vous souffrez avec eux ?
Oui, je peux avoir de l'empathie et puis je pense que je peux avoir de l'agacement aussi quand je vois que voilà qu'ils avancent pas ou que j'aimerais qu'il y ait un déclic ou qu'il y ait une compréhension qui vient pas, mais c'est fait exprès de frustrer aussi le lecteur dans ce cas-là, parce que dans la vie ça fonctionne comme ça.
Il y a des fois où vous êtes réfréné, vous aviez envie de résoudre plus vite et vous êtes dit ah non je peux pas là. Ça se passe comme ça, parce que quand vous en parlez, on a presque cette impression-là. À la fois qu'ils ont une vie propre, ça c'est ce que racontent beaucoup d'auteurs, qui au bout d'un moment, leur personnage leur échappe.
Oui, non, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes d'un coup, donc ça se fait vraiment par tout petit palier. Et si ça se fait un jour, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est au lecteur de voir ce qu'il en pense, mais c'est vraiment tâtonnant. Mais c'est comme dans la vie, hein, quand on a un problème, quand on a des phobies, de l'hypocondrie ou autre, hein, ou d'autres névroses, il y en a plein, il y en a à l'infini. Enfin, moi, je vois des milliers de gens autour de moi qui vont voir des psychologues, des psychiatres, qui font des thérapies, qui font toutes les médecines, médecine alternative, du yoga, de... voilà, qui font tout ce qu'il faut. Et pourtant, c'est vrai que quand on les voit, on se dit, ah, je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'avancer très, très fort. Donc, c'est pareil pour tout le monde, je sais pas.
Vous amusez beaucoup de l'époque, en fait. Pas tant des personnages, me semble-t-il, que de l'époque. Il y a toute cette dimension aussi où vous raillez. Enfin, je sais pas, railler, le mot est peut-être un peu fort et péjoratif. Mais en tout cas, vous vous moquez de tous les snobismes autour de la nourriture. Ça, c'est quelque chose qui vous amuse, franchement.
Autour de la nourriture ?
Tous ces personnages qui ont des épiceries bio, des domaines bio extrêmement chics. Ouais. Je pense à celui du sud de la France, là, qui, à un moment, on va pas trop en dire, mais vous avez un regard assez amusé sur tout ça, non ? Ou c'est le mien, peut-être ?
Non, mais c'est sûr, j'ai un regard amusé. Oui, j'ai un regard amusé et à la fois c'est quelque chose. Je peux avoir aussi de l'admiration pour ça, pour des gens qui sont capables de se passionner pour la gastronomie, d'être très inventif, très créatif dans des pratiques comme ça. Où moi, ça peut me paraître, très lointain. Et je trouve ça très bien en même temps d'expérimenter tout ça, des gens qui se sont mis à cuisiner des agrumes rares, au début des chefs et puis maintenant des gens qui essayent plein de choses. Je m'en moque, mais à la fois c'est pas méchant, quoi.
Ah non, vous n'êtes pas du tout méchant. Mais vous-même, vous êtes plutôt yuzu ou plutôt citron caviar?
C'est-à-dire que, pour être honnête, je n'ai jamais cuisiné l'un ni l'autre. J'ai peut-être goûté par hasard, mais bon, c'est pas
très grave. Alors, cette émission, on va revenir là au Guérisseur, ce programme animé donc par Connor, qui suit le cas de Denis, suit Jenna, votre héroïne, enfin en tout cas le personnage principal de votre livre. Le jour où on va lui diagnostiquer une maladie grave, moi j'ai tellement été élevé avec cette histoire qu'il ne faut pas crier au loup pour rien, parce que le jour où ça arrivera, personne ne vous croira. Elle, le jour où il lui arrive quelque chose, personne ne la croit, et elle-même finalement finit peut-être par ne pas se croire. Je vous laisse raconter ce que vous voulez, parce que là on est au cœur du livre et je ne veux pas trop en révéler.
Oui, effectivement, elle n'y croit pas. Peut-être parce qu'elle n'est elle est pas prête à l'affronter à ce moment-là. Mais ça, c'est sur la question des croyances. Je pense que dans la vie, on a les croyances qui nous arrangent au moment où ça nous arrange. Et que, l'imagination vient organiser un petit peu le réel de la manière qui sera la plus facile à encaisser pour nous. Et donc là, c'est comme ça que ça se passe. Au départ, sa croyance, c'est « je suis malade », c'est l'hypocondrie, ça lui donne cet ennemi, cet obstacle à franchir. Et puis après, ça devient quelque chose de vraiment tangible, d'assez grave. Et là, elle se dérobe un peu, mais peut-être pour revenir se confronter à la réalité plus tard et plus prête.
Ça, l'idée vous est venue comment ? C'est une idée forte dans le livre. Cette personne, je ne sais pas si on peut parler, moi je ne suis pas psy, donc on ne va pas dire que c'est du déni, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est cette capacité, cette force motrice qui va lui permettre d'affronter, finalement en ne voulant pas voir, je ne sais pas comment le dire sans trop en dire, c'est compliqué.
Ouais.
Pour le dire autrement, c'est ça, c'est cette idée qui vous intéressait, c'est comment on peut se défendre face au monde. Finalement, c'est ça que raconte votre livre, c'est comment on se défend face au monde.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, ouais. Comment on se défend face au monde, c'est le pouvoir. Comment l'imagination vient parfois jouer contre nous et parfois nous soutenir véritablement en nous racontant des choses complètement irréalistes, mais qui finalement sont nécessaires. En fait, le mensonge est nécessaire. Et je pense que la lucidité est extrêmement difficile. Enfin, la vérité est parfois trop démoralisante. Et donc, il faut une part de mensonge.
Ok. On écoute un peu de musique et on vous retrouve, Laura Chaumet. Je rappelle le titre de votre livre, La pulpe et le jus, c'est chez Gallimard. Et on écoute Chanter sous les cocotiers de The Pirate.
J'avais jamais pris le temps de me poser, de réfléchir à l'importance des autres dans la construction de mon identité. Les gens qui m'aident, qui m'ont aidé, tout ce qu'on fait que je me mets à chanter dans ma chambre le soir quand j'entre bourré. Et c'est un mec croisé par hasard dans ce bar qui m'a fait penser. Drôle de dégaine, la tentaine à tout casser. Il voulait nous parler musique, faire l'historique de ses groupes préférés. Noter soigneusement sur une feuille de papier. Il avait plutôt du goût, il qualifiait un bon morceau de bijou. Bijou, celui-là c'est un bijou.
du conservatoire. Moi j'étais trop ému. J'ai pas dormi, j'ai pas bu.
Lentement, je vole au-dessus de la ville et des gens. Plus rien n'est important. Tout est si calme et charmant. Je vois l'immeuble de mes parents. Lentement, lentement. Prends-moi en photo maintenant. Et j'aurai toute la vie devant toi.
Le gars nous avait reconnu, il connaissait le groupe depuis nos débuts, nos tout débuts. Et je m'en suis voulu d'être devenu ce que j'étais devenu. Le mec qui va tout le temps de l'avant sans jamais regarder derrière. Le mec qui fait pas gaffe au vélo quand il ouvre sa portière. Le mec qui renvoie pas l'ascenseur comme lui dirait son père. Quel est le rapport avec ce gars? Ça tu vois, je saurais pas l'expliquer. Mais cette rencontre pour moi a tout déclenché. Avec la boisson forcément, les quelques pentes qu'on dû aider. Je te l'ai déjà dit, quand je suis comme ça j'ai l'impression de me surpasser. Ouais j'ai des super idées qui me viennent en tête. Des mélodies chouettes, des belles pensées qui font danser, sauter, faire des pirouettes. Des élans d'inspiration, c'est de là que viennent mes chansons. C'est dans cet état-là que je prends mes plus grandes décisions. Que je délaisse l'anglais pour chanter en français. Que j'aborde Vicky en soirée pour lui dire qu'elle me plaît. Que le voile que j'ai sans cesse sur les yeux disparaît. Celui qui m'empêche d'être avec les autres comme je le voudrais.
Je vois l'immeuble de mes parents. Lentement, lentement. Prends-moi en photo maintenant. Et j'aurai toute la vie 20 ans.
Viens avec moi, on va profiter du retour de l'été. Tu verras, ça va aller. Sous les cocotiers. C'est rien, t'es juste une dure soirée. À chanter sous les cocotiers.
C'est toujours, oh là bah dis donc, elle est chiante celle-là. C'est toujours La Relève avec Laura Chaumet, La Pulpe et le Jus aux éditions Gallimard. Un premier roman qu'on a aimé à La Relève. On parlait tout à l'heure de votre personnage, de Géna. On va parler un peu de vous. Je vous ai vu sur YouTube, sur le compte de votre éditeur. Vous dites qu'avant d'écrire, vous commencez toujours par lire 20 minutes d'autres auteurs. Enfin, en tout cas, c'est un conseil que vous donnez aux gens qui veulent écrire. Commencez par regarder, par lire pardon, 20 minutes d'un autre auteur. J'ai envie de savoir, vous lisez forcément des mauvais auteurs parce que des bons auteurs, ça doit impressionner ou même des bons auteurs, ça vous aide?
Ah non, j'adore les bons auteurs aussi. Non, non, ça m'aide, ça me met un peu le pied à l'étrier. Ça me donne envie. C'est comme si j'entrais un peu dans une conversation avec eux et que j'avais vraiment envie de participer. Ça me donne envie de participer. C'est comme, je sais pas, quand on est passionné par, je sais pas, un sport, on regarde et on a envie de rentrer sur le terrain pour jouer. C'est ça.
Et quand vous lisez comment? Je vais pas y arriver. Vous lisez de façon, c'est pas automatique, mais vous lisez pour le plaisir de lire ou pour vous, le plaisir de voir comment c'est fait et d'essayer d'arriver à faire la même chose? Parce que là, c'est votre métaphore sportive qui me fait penser à ça.
Sur l'aspect technique, non, je vais quand je lis pour l'échauffement entre guillemets, c'est vraiment je regarde tout l'aspect technique, les mots. Parfois, je m'accroche à un mot et c'est un mot qui va me faire décoller. Je vais me dire non, ce mot-là, je sens que ça peut me servir de rampe de lancement pour une pensée ou pour une réflexion. Et là, je l'écris et voilà.
C'est déjà bien. Vous êtes nourri de quelle influence quand vous lisez ce livre-là?
En fait, quand j'écris sur un sujet, ce que j'essaye de faire en revanche, c'est de pas lire d'auteurs qui parlent des mêmes sujets.
Ah, c'est...
Ouais,
c'est...
Ouais, parce que justement, je veux pas trop me faire influencer. Donc, je lis des choses qui n'ont généralement rien à voir.
C'est un choix, parce qu'il y a des auteurs qui, avant un sujet, au contraire, cherchent tout ce qui se rapporte à des sujets proches pour voir comment les autres l'ont abordé.
Oui, je sais. Mais moi, j'ai. En fait, oui. Moi, j'ai juste le. En fait, j'ai mon imagination s'enraye un petit peu si je viens mettre trop de documentation ou de réalisme. J'ai besoin d'avoir une grande marge de manœuvre.
Une liberté, un horizon dégagé.
Ouais, exactement.
Pas l'image à laquelle je pensais, parce que vous ouvriez les mains
dégagé.
En parlant.
Ouais.
Et je me disais que c'était très clair en vous voyant, mais que les gens ne vous voyaient pas, puisqu'on était à la radio. On a la chance encore ici de ne pas être filmé, qu'on fait vraiment de la radio, il n'y a que la voix. Et je trouvais que dans vos mains qui s'ouvraient, on voyait l'horizon dégagé devant vous.
Voilà, c'est ça. C'est toute la place pour l'imaginaire.
Ouais. Vous croyez à la force de l'imagination ? Parce que c'est aussi ça que raconte
beaucoup,
ce livre.
Oui.
C'est comment... En se faisant croire quelque chose, on pouvait avoir un vrai effet sur le réel.
Ah oui, oui, oui. Non, moi je crois beaucoup à la force de l'imagination. J'adore les récits de l'imaginaire. Et puis moi-même, dans ma propre vie, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et...
On a beaucoup parlé d'anxiété. Pendant la musique et un petit peu avant l'émission, je vous ai confié que... Je sais que vous n'êtes pas docteur, que moi-même j'avais un passé d'hypochondriaque et qu'il y avait une chose qui était peut-être la chance des anxieux, c'est qu'ils ont beaucoup d'imagination parce qu'à partir de rien, ils arrivent à se monter des histoires, à s'inquiéter pour, parce qu'un stylo a été mal placé, que peut-être ça va décaler l'univers et qu'on court à la fin du monde. C'est dans la version extrême. Est-ce que ça aussi c'est amusant pour un romancier finalement d'avoir quelqu'un qui avec rien fait beaucoup de choses ?
Oui, 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 parce que c'est ça. Bon, là, ça peut presque aller jusqu'à la paranoïa parfois pour les grands imaginatifs. Mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est faire de sa vie une forme d'aventure. Et je pense quand il se passe pas grand-chose, quand on est dans une forme de confort, voire d'ennui, où il n'y a pas assez de, oui, qu'il n'y a pas assez de d'adversité. Bah, finalement, je crois que c'est aussi quelque chose. Je pense qui est étudié dans les neurosciences, mais le cerveau est fait pour trouver des obstacles et pour réfléchir à régler les problèmes. Donc en fait, je pense que les anxieux sont aussi capables de s'inventer des problèmes pour pouvoir les résoudre. Et il y a une forme peut-être de satisfaction quelque part là-dedans.
On parle beaucoup, hein. Je tiens quand même à dire que c'est un vrai roman d'imagination, qu'on rit avec une histoire, on s'amuse, c'est pas du tout un essai de psychologie.
Oui, non, non.
même si c'est très intéressant ce que vous avez dit, ça m'a fait tilter là sur les anxieux qui ont besoin des profs. Enfin bon, vous écrivez à un moment dans votre livre, et ce sera ma dernière question, j'adore cette expression, votre personnage dit de la réalité, cette sale petite effrontée, et j'avais envie de vous demander si avec ce roman vous espérez l'avoir fait baisser d'un ton, cette sale petite effrontée qui est la réalité. Vous l'avez calmé un temps, en tout cas ?
Oui, je l'ai calmé le temps de l'écriture, ouais.
Et ça vous a fait du bien ? Ça vous a fait plaisir ?
Ah bah oui.
Vous avez
oui.
Cette sentie plus forte d'avoir réussi à la ramener là où elle devrait être, cette sale petite effrontée ? J'adore cette expression.
Ouais, d'une certaine manière, mais bon, elle revient toujours, toujours plus forte et voilà.
Bon, bah, il faudra écrire un deuxième roman alors maintenant.
Voilà, exactement.
Il est en cours ?
Oui, il est en cours, ouais.
Bon, on vous souhaite du succès.
Merci beaucoup.
Pour le deuxième, merci beaucoup. Je redonne votre nom, le nom de votre livre, pardon, La Pulpe et le Jus. En le lisant, vous saurez ce que c'est, pourquoi et pourquoi ça s'appelle de cette façon. Vous êtes Laura Chaumet et votre livre est publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'être passé par notre studio. Ah oui, pardon, il faut que je désannonce, c'était La Relève. C'est n'importe quoi ce soir, préparé, présenté par Christophe. La réalisation était assurée par Delila. Cette émission et toutes les précédentes sont disponibles sur le site de Radio Campus Paris. Vous retrouverez toutes les émissions de la saison et celles des saisons précédentes. On se retrouve dans 15 jours pour La Relève. Encore quelques numéros d'ici à l'été et aux vacances de Radio Campus Paris, les 18h30 et 39 secondes.